Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir.
Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin vous propose une sélection de quelques moments forts vécus à l'émission.
Que de souvenirs, en plus de 120 émissions, c'est incroyable, tous les moments que ça l'a occasionné chez vous et évidemment chez moi aussi. Et j'avais le goût aujourd'hui, pour conclure cette saison 2019-2020 de Connaissez-vous, de vous offrir, je suis un peu inconfortable avec le principe même, je dirais. J'ai choisi d'appeler ça les moments forts de Martin. Et je l'ai dit un peu la semaine passée, il faut pas se vexer si vous n'êtes pas dans cette sélection-là. Premièrement, ça va être la sélection 2017-2018, parce que sinon, ça faisait beaucoup trop de moments, hein? Beaucoup trop de d'extraits à présenter. Donc, on va se concentrer sur 2017-2018. Dans un deuxième temps, je suis allé de mémoire beaucoup, hein, parce que j'avais pas le temps de réécouter toutes les émissions. Et en plus, bien, des moments forts, il y en a eu à chaque émission. Je pense que c'est à vous tous d'avoir votre moment fort ou vos moments forts. J'espère que il y en a plus qu'un quand même, en 124 entrevues. Mais chaque émission a été planifiée, chaque émission a donné lieu à un rendez-vous entre moi et entre mon invité, et chaque émission a été enregistrée et il y a eu un délai entre le moment où l'émission a été enregistrée et l'émission, le moment où elle a été mise en ligne. Et pendant ce délai-là, les gens auraient eu le temps de dire bien moi je veux plus que l'émission soit mise en ligne, et ce n'est jamais arrivé. Alors on considère à ce moment-là que l'émission a été faite et bien faite, hein. On aurait pu sûrement tous la faire différemment, on aurait pu la recommencer et ça aurait été différent, mais elle a été assez bien pour être mise en ligne et assez bien aussi pour dire qu'elle va apporter quelque chose à quelqu'un, à ceux qui vont l'écouter. Alors, voilà le pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé quand même de vous faire les moments forts de Martin, volume 1, hein, puisque c'est 2017-2018, on peut peut-être prédire qu'il va y avoir 2019-2020. Et après, on verra, hein. Mais cette émission-ci, aujourd'hui, vous allez entendre des extraits de personnes, et ça va vous donner peut-être le goût d'aller réécouter cette entrevue-là. Et si, par le plus grand des hasards, vous ne l'aviez pas écoutée lors de sa mise en ligne originalement, bien, ça vous donnera peut-être le goût de retourner à cette émission et de l'écouter au complet pour voir aussi tout ce que la personne va avoir expliqué autour de ce que vous n'entendrez pas aujourd'hui. Alors, je vais me taire un peu et on va commencer. Et je le disais tantôt, hein, des rencontres, il y en a eu de toutes les sortes. Je vais essayer de vous donner aussi un peu le contexte dans lequel j'ai rencontré ces gens-là et des petites anecdotes aussi d'enregistrement quand il y en aura. Et je veux commencer avec presque une des premières émissions de la série, hein, en mars 2017, plus précisément le 17 mars, la troisième émission de Connaissez-vous, qui s'est faite avec un monsieur que j'aime beaucoup, qui est très sympathique et que j'avais vraiment le goût de recevoir dans les premiers invités de Connaissez-vous, parce que je savais qu'il allait nous expliquer beaucoup de choses avec ses couleurs, avec son humour et avec sa joie de vivre que je considère contagieuse. Mais si il se retrouve en plus dans les moments forts aujourd'hui, c'est parce que il m'a un peu justement mis il m'a beaucoup surpris dans ses propos et il nous a expliqué d'ailleurs comment ça se passait quand il était à l'internat, quand il était à l'école adaptée et que il passait ses semaines là complète, et il fallait que les éducateurs, les professeurs occupent tous ces gens. Alors, il nous parle un peu qu'il a fait de la musique, mais ce qui m'a intéressé le plus, moi, c'est quand il nous a parlé de sport et des incidents qui se produisaient en pratiquant ces sports. Donc, je vous le laisse vous l'expliquer, Fernand Boucher.
Puis là, on arrive là, l'école finie, c'est, mettons, on va dire un lundi de septembre, c'est à 4h, la course. On s'en va courir, c'est organisé en différents groupes, de A1 à A5. A1, c'est des grands, ça, qu'on appelait les instructeurs, les autres, ils courent 4000 ou plus. Okay. Dans A2, ça court 3000. Dans A3, ça court 2000. Puis A4, ça court 1000. A5, ben, c'est les personnes qui avaient d'autres choses que des problèmes de vision. Hein. Les autres, ils marchaient. Puis, alors, moi, j'ai commencé dans A4, courir 1000. 4 tours de piste, la piste de la cour du 1255 Beauregard.
Ah oui, OK, là, on est au 1255.
C'est ça. Là, okay. C'est là. Quand j'arrive à l'ouvrage 71, là on nous organise comme ça. A1... Oscar, plus souvent, c'est des gens de 1 qui étaient nos instructeurs. C'est des grands, ça, qui étaient nos instructeurs. Nous autres, les petits, les flots, on nous appelait.
Mais avez-vous des guides ou vous couriez comme ça?
Ah non, ben là, alors c'est ça. C'est qu'il y avait, oui, il y avait des guides. Il y avait les amblyopes, hein, les demi-voyants. Eux autres, ils nous guidaient.
Ils vous guidaient.
On leur prenait l'épaule. Hein, on prenait l'épaule du voyant. Un demi-voyant, on appelle ça un voyant. Hein, mm-hmm. On est avec. On leur prenait l'épaule du voyant, puis on le suivait de même.
Et là, à 10 ans, est-ce qu'on est téméraire? Est-ce qu'on a un peu conscience du danger? Est-ce qu'il est arrivé des incidents? Est-ce que...
Ben, c'est pas significatif. Hein? On court. Après ça, c'est sûr que là, c'est... L'après-midi, mettons, on faisait A1 à A5. Après ça, le soir, ça tombait B1, B2, B3, B4, B5. B1, et là, la différence, ça fonctionnait pas juste selon les petits, les grands, puis les moins habiles, les plus habiles. C'était pas juste la différence physique. Quand t'arrivais à B1, B5, là tu tombais B1, les petits aveugles, B2, les grands aveugles, B3, les petits amblyopes, puis B4, les grands amblyopes.
Oh, d'accord.
Et là, ben c'est sûr, mettons là on joue au baseball dans B2. Ça, c'est B2 des grands aveugles. Là,
vous bon. Jouiez au baseball?
Ouais. Alors là, au bâton, c'était un ballon. Ouais. Mais au champ, c'était tout le monde sa clôture. Bon, moi, à un moment donné, j'ai foncé dans la clôture, je me suis fendu le front.
Bon.
Ça arrive. Ça peut arriver, là. L'éducateur m'amène à Charles Lemoine pour les points de suture. L'autre fois, c'est l'autre gars qui me donne un coup de bâton sur la tête.
Oui.
Bon, ça fait une poque. Ça a pas fendu, mais ça a un tel habitat aussi cette fois. C'est sûr qu'il y en a. Mais il y en a partout. Il y en a là aussi, hein. On a eu des accidents. Mais on joue pareil, disons.
Et là, les études à travers ça,
ils nous mettent, ils nous font, mais là encore, là, j'ai eu un choix. Quand ils m'ont envoyé au secondaire à Louis Braille, ils m'ont dit, tu continues, soit que tu fais ta 7e année, c'était la première année qu'il y avait du monde qui ferait pas leur 7e année.
Okay.
Fait qu'ils disent, soit que tu fais ta 7e année en noir, hein, parce que moi, ils me faisaient, ils disaient, tu veux te l'air un peu, on te fera faire du noir. Puis, fait que, mais où, quoi, parce que, Eux autres, à Nazareth, m'avaient mis en braille jusqu'à les 4 premières années. Après ça, les 2 années, j'ai fait en noir. Puis là, ils m'ont dit, soit tu continues en noir en 7e, ou tu t'en vas en secondaire 1. Ça venait de sortir, ce mot-là.
Oui.
Secondaire 1, mais on te retourne en braille. Oh, moi, je dis, on m'envoie en secondaire 1, on me retourne en braille.
OK. Ça a été un choix aussi?
Oui, comme un choix, ouais. Que les éducateurs me donnaient, mais on pensait que c'était mieux. C'est pareil comme moi, j'ai joué dans B3 puis dans B2. B3, c'était les petits voyants.
OK.
Mais quand c'est venu pour jouer dans B4 avec les grands voyants, là, j'étais pas de taille. Parce que moi, j'ai 3 problèmes de vision.
Bon.
Premier problème de vision, c'est que je vois pas clair. Mon deuxième problème de vision, c'est que je suis pas aveugle. Puis mon troisième problème de vision, c'est que je suis pas amblyope, je suis pas demi-voyant, non.
Oh, ça fait que t'es comme inclassable.
Parce que j'ai pas de champ de vision. Wow. J'ai une vision centrale.
C'est ça.
Alors, moi, quand je jouais dans B3 avec les demi-voyants, ben, j'étais pas de taille. Je voyais le ballon dans la main du lanceur, mais je la voyais plus rendue sous mon bâton. Alors, ce qui fait que là, et quand ça a été le temps de jouer avec les grands, ils m'ont fait jouer avec B2, avec les aveugles. Là, je voyais trop pour les aveugles, mais j'étais mis avec les deux.
OK.
J'aime mieux que les aveugles et les voyants.
D'accord. Et ça doit être un peu quand même frustrant, certains
moments. Ben là, on n'a pas le choix. Avec un cas comme moi, B3, dans B4, j'aurais pas été assez bon. B4, c'est ceux qui ont fait les hiboux de Montréal par la suite. Là, m'amener, ça joue comme des voyants, ça. C'est une canne de jus de tomate, mais sinon, eux autres, ils voient pas loin, mais ils voient large, ils voient leur canne de jus de tomate quand elle est rendue proche d'eux autres. Ils sont incapables de la mettre sur leur hockey puis de pousser jusque dans le but. Moi, la canne, j'avoue, dans loin et loin, mais quand j'arrive, je ne l'avais plus. Fait que c'est pas la même sorte de vision.
OK. Et là, finalement, t'as fait ton secondaire au complet.
Ah, j'étais le premier à faire mon secondaire 5 à l'école.
Ah, pas vrai, le premier?
Ben, moi, on était 3, là.
OK.
Parce que les autres, ils avaient envoyé en polyvalent.
La première cohorte, là.
Ouais, mais si on est pas... Parce qu'ils en faisaient pas de secondaire 5, ils finissaient au secondaire 4. Mais là, nous autres, on a fait secondaire 5. On était 3. Ce qui fait que moi, j'ai pas vécu la polyvalente, j'ai passé au cégep direct. Ça fait une adaptation de moins. Je vais dire, il y en a, là, je constate ça, que le monde a fait polyvalente, cégep, plusieurs adaptations. Ça, je n'ai eu une de moins. Là.
Fait que de faire une adaptation de moins pour toi, c'était une bonne chose. Ça avait pas...
Mais j'en ai qui ont arrêté à polyvalente.
Okay.
Qui ont pas arrêté au cégep après. Uh-huh. C'était trop
dur. Qui trouvaient la marche trop haute.
Mais ça devenait... À chaque adaptation, c'était épuisant. Hein. Fait que là, ils ont fait polyvalente, puis ils ont pas fait cégep. Puis là, mais moi, j'ai comme pas eu à faire face à la polyvalente. J'aurais aimé ça, remarque-moi, mais ça m'a permis d'avoir de l'énergie pour quand je suis arrivé pour le cégep.
Et là, comment ça se passe au cégep?
Tu as été en... On sait pas trop ce qu'on veut. Moi, j'ai fait sciences humaines, okay. Sciences administratives, un peu à cheval entre les deux. J'ai même essayé informatique. Je voulais même faire musique, mais j'étais pas taillé assez. Non, c'était pas vraiment moi.
Informatique, ça devait être un peu impensable aussi.
Non, parce que... Oh non, mes copains de classe, mes camarades de classe, ils ont été en informatique. Ils allaient en Alberta dans ce temps-là.
Ah oui, en formation, Alberta.
Ouais.
Okay.
Puis ils ont fini technicien. Ils ont fait des carrières au gouvernement en informatique.
OK. Mais avec encore là un bon résidu.
Non. Un avec un résidu, l'autre sans vision.
Ah oui, OK,
puis, en fait, puis sans compter que j'ai un autre copain de ma classe qui fait de l'informatique dans le privé. Puis... il a fait une carrière dans le privé aussi. Non, c'est pas moi, j'ai fait sciences humaines, moi.
OK.
Puis après ça, j'étais allé faire sociologie à l'UQAM. Passé mes années 80 à l'UQAM.
Et là, c'était comment? Est-ce qu'il y avait des services au cégep?
Il y avait les services, mais moi, je faisais plus avec ma vision.
OK.
Puis, j'avais une copine qui me lisait des livres pour avoir les cours de français. Elle me disait ça sur mon GE, tu sais.
Une copine voyante?
Ouais, c'est okay. Ça, qui me disait sur mon GE. Mais, tu sais, j'avais pas demandé, je demandais pas, je m'occupais pas de mes problèmes. Tu sais, je faisais ce que je pouvais, puis je
me débrouillais par moi. Comme tu
ouais, puis jusqu'à temps que ça a venu le temps avancer dans l'université où je voulais passer comme au deuxième cycle, là, il fallait que je fasse... T'sais, tant qu'on faisait les travaux en équipe, moi, je faisais la partie théorie, les autres faisaient la partie pratique. Ça allait bien. Mais quand c'est venu que moi, il fallait que je fasse la partie pratique, là, puis là, j'avais pas vraiment assimilé les méthodes. Puis j'ai pas pu suivre.
Okay.
Hein, puis là, parce que moi, je posais pas de questions. Moi, j'étais bon, je comprenais les textes que je lisais ou que je me faisais lire ou que j'entendais. Mais quand c'était le temps de faire moi-même des enquêtes, je suis rendu là. Je retournerai finir mes apprentissages à l'école une bonne fois. Mais non, j'ai pas fini. C'est ça, c'est parce que aujourd'hui, les gens, ils font des études, puis ils s'occupent d'adapter les études. Moi, je m'occupais plus ou moins de ça. Alors, c'est ça. J'ai quand même réussi là à faire l'université.
Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai mal à la tête à sa place. Je suis pas sûr que j'aurais eu le courage, moi, de pratiquer ces sports-là en étant avec une bande de non-voyants. On va aller dans le temps un petit peu plus vite. On va s'en aller à l'émission numéro 11. Et l'invité de l'émission numéro 11, bien, je l'ai connu. Dans d'autres circonstances, je l'ai connu moi-même à l'école Jacques Ouellet, alors que j'avais moi-même 10 ans, donc lui en avait à peu près 6-7. Ça nous rajeunit pas, mais ça nous amène aussi dans un autre contexte. L'invité de l'émission numéro 11 s'appelle Lee Julien. L'émission a été mise en ligne le 12 mai, l'émission numéro 11. Donc, Lee, comme je dis, on s'est connus, on était très jeunes. Je l'ai revu peut-être une fois, peut-être qu'il avait peut-être 12-13 ans. Et après ça, j'ai été 20 ans sans le voir. Alors, on peut se dire que quand on s'est rencontrés pour faire connaissez-vous, ça faisait drôle, hein? Ça faisait très, très drôle. Et Lee nous a raconté aussi, décidément, comment il était casse-cou quand il était jeune, parce que il n'a pas été surprotégé et que ce qu'il avait envie de faire, ben il le faisait. Comme il va le dire lui-même, maintenant il s'est calmé, mais à cette époque-là, hein, il avait envie de faire quelque chose, bien il le faisait. Je vous le laisse vous raconter ça, Lee Julien.
On vivait un contexte assez particulier à l'époque parce que c'était une école où toutes sortes de gens étaient mélangés, toutes sortes de personnes à problème, multi-handicap, ouais. Etc. Mm-hmm. Donc, tu sais, j'ai jamais eu une classe plus nombreuse que 8.
Ah, puis déjà 8, c'est beaucoup.
C'était beaucoup, là, parce que j'ai déjà connu 5, 6.
Nous autres, en 6e année, on était 2.
Mais ils nous avaient jumelés. J'ai jamais entendu ça, c'est incroyable.
Mais, non, mais ils nous avaient jumelés.
Comprenant le prof ou.
Non, okay. 2. À part le prof. Mais ils nous jumelaient souvent avec. Cinquième année, quatrième année.
Ben oui, mais c'est forcément.
Mais deux, sixième année, on était 2 inscrits. Ça que c'était pas beaucoup.
Oui, c'est. Les gens peuvent pas s'imaginer qu'est-ce que ça fait de sortir du primaire quand que ça fait 6 ans que. Bon, d'abord, une classe de 6, tu peux pas commencer à faire le clown puis dire que c'est pas toi. Tu peux pas. Tu sais, t'as quand même une éducation là, ouais. Au poil, là, dans le sens où crime, le prof, il a tout le temps du monde de t'aider, ou si le prof est compétent, bien sûr. Chose qui n'était pas toujours le cas. Mais, okay. Tu sais, honnêtement, j'étais chanceux ouais. Malgré ça, parce que j'ai eu quand même 4 ans de. Sur 6 ans, j'ai eu 4 ans d'un prof extraordinaire.
Mais on va se dire quand même les vraies choses, là.
C'est un choc quand tu sors de là puis tu t'en vas dans une école régulière. C'est incroyable. Mais incroyable.
Moi, je vais me permettre de revenir dans mes souvenirs un peu. Puis peut-être que ma perception est erronée là, par rapport à... Moi, j'étais jeune aussi, là. Mais tu déplaçais de l'air, toi, quand t'étais petit. Quand
on me dit ça, oui, oui.
Ben oui.
Oui.
Moi, je me rappelle de Lee qui déplaçait, qui bougeait.
Mais c'est que, en fait, là, la raison, un peu, c'est que mes parents m'ont jamais empêché de rien faire. Et ça, je sais pas où ils ont trouvé la force de faire ça, parce que, tu sais, souvent, les parents sont plus portés à couver leur enfant parce qu'ils ont un problème un handicap ou peu importe. Du moment qu'ils sont différents, là, ils se transforment. Mais moi, j'ai vraiment pas eu ça. Au contraire, mon père me racontait une anecdote que avant que je rentre à l'hôpital pour me faire opérer, c'est-à-dire me faire enlever le seul œil qui me restait, parce que là, ça devenait problématique, parce que le cancer est en train de... Il y avait trop de risques de se propager au cerveau, étant donné que c'est proche. Et quand je suis sorti de l'hôpital et je suis retourné à la maison, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, il est où mon bicycle? Mon père, ça l'a scié en deux. Parce que lui, il avait pris le bicycle puis il l'avait serré dans le grenier. Il avait dit, OK, c'est fini.
Il ne touchera plus à ça.
Non, c'est terminé. Mais là, mon père, il ne savait pas en tout quoi répondre. Vraiment, là, tu sais, c'est ton bicycle. Ton bicycle, il est serré, là, ton bicycle. Là, j'ai dit, je veux mon bicycle. Moi, je revenais de l'hôpital, mais oui. Mon bicycle, je l'avais pas oublié, on n'avait pas le civil cerveau, là. Fait que, là, mon père, avec tout son change, a monté au grenier, descendu de bicycle, puis il m'a laissé aller avec ça. Et j'imagine, là, oh, mon Dieu.
Ouais.
Mais, c'est ça. C'était cet événement-là qui a fait que ils se sont tout de suite acclimatés. Bon, il y avait, moi, là, je manquais pas de couilles. J'ai jamais eu peur de rien, contrairement aujourd'hui.
Aujourd'hui, t'as plus peur de
ça y est, je ferais jamais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, quand j'étais jeune. C'est impensable. Je faisais du snowboard, je faisais du skateboard avec les amis. Moi, là, je faisais jamais je m'empêche de faire ce que les autres faisaient.
Oui, ben, OK.
Puis je me suis pété à gueule, là.
OK.
Mais comme faut, là. T'sais, mais j'ai recommencé encore. J'ai la tête la plus dure que la Terre a portée, sûrement. Puis ça a des bons et des mauvais côtés, parce que ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que cet événement-là a amené autre chose et autre chose et autre chose, ce qui fait que... juste à dire que moi, je viens d'une famille... j'appelle ça une famille à gaz, parce que, bon, tu sais, mon père a toujours eu des 4 roues... des motos. Je pense qu'il y a eu comme... Ils avaient déjà compté, il y a eu comme 73 voitures différentes et camions dans sa vie.
Ah ouais,
okay. Mon frère, c'est un mécano. Autant que moi, je suis dans la musique depuis l'âge de 8 ans. Mon frère, à 10 ans, il défaisait des motoneiges en pièces, puis il les modifiait, puis il remontait. Fait que, tu sais, c'est une famille à gaz. Fait que là, mon frère, il avait un motocross. Fait que là, j'en voulais un. Parce que moi, j'avais un mini-trail. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme un... c'est comme une motocross dans le fond, sauf que il y a pas de... C'est comment je peux dire ça? Hey boy. c'est semi-route, semi-trail. C'est ça que ça veut dire. Tu peux aller, t'as le droit d'aller sur la route, contrairement à un motocross où c'est vraiment juste dans les sentiers.
Mm-hmm.
Fait que... moi, je me promenais avec ça. Puis il y avait ça dans mon camion, je le sortais, je faisais le tour de la maison, je faisais le tour des arbres, je me promenais avec ça. Puis même qu'à un moment donné, c'était très drôle parce que... j'avais embarqué mon petit voisin en arrière de moi sur le semi-route semi-trail.
Ton petit voisin qui voyait, là?
Ah oui.
OK.
Puis moi, j'avais peut-être, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans. Puis lui, il y en avait comme 6, 7. Et là, c'est quand son père s'est rendu compte de qu'est-ce qui se passait. C'est, sa mère a fait faire une crise cardiaque, en tout cas. C'est très drôle. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, juste, tu as une idée, là...
ouais, ben avec
le temps, il n'y avait rien à mon épreuve.
C'est ça. Avec le temps, on prend un peu connaissance des dangers, puis tout ça, ça peut changer nos habitudes, mais ça refraine pas l'envie de faire tout ce que tu veux pareil.
Ben, je te dirais que je me suis assez pété à gueule dans ma vie. Là. Ça me tente comme plus.
À un moment donné, ça nous tente juste plus de se péter à gueule?
Non, ça me tente plus. j'ai mon quota de ça, là, tu sais.
OK.
C'était la petite période casse-cou de nos invités d'aujourd'hui. On passe, au cas un peu plus grave. Et les cas qui nous ont un peu arraché presque des larmes, moi, je vous dirais que notre prochain extrait, on s'en va tout de suite à l'émission de la semaine suivante, l'émission 12, avec mon grand ami Frédéric Gauthier. Frédéric, il y en a plusieurs qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas, qui ne connaissent pas toute son histoire. Et son histoire, il me l'a raconté, évidemment, dans cette émission-là. Je la connaissais, son histoire, avant l'enregistrement, mais reste quand même que, quand on enregistre, on espère que la personne va nous raconter. On sait pas trop, hein? On se dit comment elle va nous raconter ça dans... Une chance que Fred aime parler, parce que moi, il y a eu quelques petites secondes là où je me suis senti bien ébranlé et j'étais content que Frédéric continue de parler. Donc, je vous laisse vous raconter probablement la pire journée de sa vie en juillet 1995, la journée où il est arrivé un incident qui l'a fait en sorte qu'il a perdu la vue. Émission 12, 19 mai 2017, Frédéric Gauthier.
Le dernier employeur que j'avais, c'est l'employeur que j'avais fait mon stage. C'est une compagnie qui a fait faillite, malheureusement, aujourd'hui. Transport Asselin, eux, ils étaient spécialisés dans le transport de sur de bois, copeaux et écorce. C'est des choses qui sont le fun à transporter parce que ça sent bon. Puis si t'as à aller, mettons, mettre la toile sur le voyage ou peu importe, ben tu te salis pas. Tu sais? Mm-hmm. Au pire, aller, t'as des morceaux de sciure de bois sur toi, mais...
C'est rien de bien.
C'est rien. C'est pas comme transporter d'autres choses ou de l'asphalte, ça le colle en dessous des pieds, puis c'est pas intéressant.
Là. OK, ça qui avait l'aspect des choses agréables à transporter.
Oui, c'est ça. Puis okay. C'est un employeur où ce qu'il y avait un programme d'entretien de l'équipement qui était assez bien, ça fait que... L'entretien se faisait de façon régulière et tout et tout.
C'est qu'il n'y avait pas trop d'inquiétude.
Oui, c'est ça. Comparé à d'autres employeurs, il y a un employeur que j'ai eu avant, que oui, on était bien payé, sauf que il y avait quelque chose sur le camion, tu allais voir les mécaniciens, puis c'était tout le temps avant que tu partes. Puis il n'y avait pas de programme d'entretien préventif de fait là. Fait que c'était un petit peu tannant. Malheureusement, quand je travaillais là, il m'est arrivé un accident de travail. Une belle journée d'été, beau soleil.
En
1995.
Qui a chamboulé ta vie,
forcément. Oui, ça a chamboulé ma vie complètement, du tout au tout. Je suis allé dans une série chercher des copeaux. Je m'en allais dans la région de Charlevoix, via le Bas-Saguenay. Puis là, j'étais dans un petit village. J'étais en train de monter une grande côte qui est peut-être, faut pas, 2 kilomètres de long, tu sais. Puis, il n'y avait pas de voie pour dépasser les voitures. Ça fait que, bon, ça s'enlignait, ça s'empilait en arrière de moi, tout, 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 tout. Puis, je regarde dans mon miroir, ma skate voiture. Puis là, je vois de la fumée qui sort de nos roues. Oups. Ah, j'ai un problème. Fait que, dans la côte, il y avait un. C'était un magasin général, là. Ils vendaient de la liqueur, des chips, toutes sortes de choses. Puis, ils vendaient des matériaux de construction aussi. Ça fait que, d'un petit village, bien pratique. Donc, il y avait une grande cour. Je me parque là. Puis, je vais voir. Puis le feu t'avait pris dans la roue, parce que dans le système de freinage d'un camion, t'as des points de lubrification que tu mets de la graisse de façon périodique. La façon que ça fonctionne, c'est qu'ils mettent le fusil à graisser, pompe, pompe, pompe. Quand ça déborde, ça veut dire que c'est correct. Fait que t'as tout le temps de la graisse qui déborde, puis là, la poussière, le sable colle là, puis la graisse part pas nécessairement, elle peut rester là. Fait que ça a poigné en feu, mais c'était pas des flammes vives, là. Mm-hmm. Fait que le réflexe que j'ai eu, c'est je vais éteindre ça, ces flammes-là, puis dans ton camion, t'as tout le temps l'instincteur, t'as pas le choix d'avoir ça. Fait que je vais chercher l'instincteur, je me penche en dessous, je tire sa goupille, le pneu explosé. J'ai pas eu le temps de vider mon instincteur. Fait que là, le pneu, il a explosé, ou dans ma face, le trou s'est fait. Ça, je le savais pas, mais le trou s'est fait parce que j'avais le visage. C'est pas fait de l'autre bord, puis c'est pas fait à côté. Fait que tout l'air sous pression est arrivé dans mon visage. Fait que là, la lumière s'est fermée instantanément. J'ai arrêté de voir sur le champ. Je sais pas moi j'ai fait, mais j'ai réussi à sortir de là, puis j'ai marché un peu, puis j'ai pas marché vers la rue. On dirait que je, de façon intuitive, je me suis orienté vers la cour du dépanneur, j'ai fait quelques pas, puis là je me suis couché à terre. Parce que là, c'est comme si j'avais reçu un gros coup de poing dans la face d'un géant.
Forcément, ça...
Mettons, j'ai pas ça perdu connaissance, mais j'étais...
Sonné.
J'étais sonné, pas à peu près. Mais là, j'avais un mal terrible, mais c'était tout au niveau du visage, là, tu sais. Fait que le propriétaire du dépanneur qui était venu me voir avant, puis j'y avais dit, oh, j'ai un problème, je vais éteindre ça, il m'avait dit, pas de problème. Puis là, il est venu me revoir, là. Puis là, il est venu me porter secours, tu sais. Fait que finalement, moi, j'ai dit, hein, il est allé appeler l'ambulance, mais j'ai dit, tu sais, appelle mon patron à tel numéro, tu sais, il dit que j'ai eu un accident, fait qu'il l'a appelé aussi. Fait que c'est ça qui a chamboulé ma vie, je suis devenu aveugle, là. Fait que j'ai été transféré à l'hôpital. Au Saguenay, il y a des ophtalmologistes, mais ils ne sont pas sur-spécialisés comme à Montréal, donc j'ai passé 4 jours là. Ils m'ont opéré le jour même pour nettoyer les lésions puis refermer les plaies qui s'étaient formées. Mais comme ils n'étaient pas capables d'évaluer les dommages subis à mes yeux, ils m'ont transféré à Montréal, ici à l'hôpital Notre-Dame. J'ai été reçu par le docteur Sebag, qui avait une petite machine, il a passé ça dans mes yeux, c'était un genre d'échographie. Puis là, il était capable de voir les dommages internes à mes yeux. Fait que il me dit, l'œil droit, ben... Pour l'instant, on va l'oublier, là. L'œil gauche, il dit, arrête quoi à faire avec. Fait que j'avais eu un décollement de rétine, entre autres, dans cet œil-là. Fait que peut-être une semaine après, 10 jours, quand mon œil a guéri un peu, il m'a opéré, puis là, il m'a replacé ma rétine, là. Ça, c'est une opération classique qui se fait dans des décollements de rétine. Il a replacé ma rétine dans le fond de l'œil, il a mis un implant. Puis, quelques jours après, il m'a retourné chez nous. Fait qu'au total, tout, j'ai été hospitalisé 2 semaines.
Quand même.
Et puis, je suis sorti, convalescence à la maison. Puis là, ça, je m'en souviens plus. Mais là, j'avais des gouttes à mettre plusieurs fois par jour. Puis là, c'est sûr que là, j'avais mal à la tête. C'était atroce. Un moment donné, première fois que je me suis mis à revoir, je m'en souviens. Fallait que je me force pour voir les yeux au début. Mes paupières, j'avais de l'inflammation, ils étaient enflés. Donc, ça restait fermé. Fait qu'il fallait que je me force pour ouvrir les yeux. Puis, un moment donné, je suis allé aux toilettes, puis j'avais un morceau de papier dans les mains. Puis là, j'ai dit, je pense que je le vois. Là, je l'ai bougé. J'ai dit, hey, ça bouge. Là, j'ai dit, hey, man, hey, je vois le papier de toilette. Mais tu sais, je voyais pas grand-chose, là. Tu sais, je voyais. Tu sais, c'était juste quasiment un contraste que je voyais.
Mm-hmm.
Puis là, ouais, là ma rétine avait recommencé à fonctionner. Ça fait que là, la vision a augmenté tranquillement, pas vite. Doulouloulou. Fait que là, j'ai repris la vision. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Assez rapidement parce que je me suis aperçu maintenant que quand tu subis ce type d'opération-là, au début, tu dois garder la tête le plus vers le sol possible, regarder vers le plancher, parce qu'ils te mettent du gaz dans l'œil, ça appuie sur la rétine. Apparemment que c'est ça qui aide à la fixer en place. Mais le gaz, lui, il s'en va tranquillement, pas vite. Un moment donné, le gaz en diminuant, ben là, au début, ça ne te cause pas de problème, mais quand le niveau de gaz baisse, là, tu regardes à l'horizon, puis c'est comme si tu avais à moitié l'œil dans l'eau. Fait que tu vois une partie en haut, là, que tu vois normal, puis l'autre partie en bas, c'est comme si tu voyais dans l'eau. C'est assez bizarroïde, ça.
On va changer de saison, mais on va rester un peu dans le dramatique. Il y avait un invité, figurez-vous, que j'avais entendu parler en Abitibi suite à un incident qui était arrivé aussi. Ça s'est passé en 1985. J'avais 10 ans, mais je m'en souviens. Et cette personne-là, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler pendant qu'on était en Abitibi. Son oncle m'a enseigné au secondaire. Mais par contre, comme je dis, c'est pas longtemps avant le début du projet de Connaissez-vous que je l'ai croisé sur la plateforme de jeu Le Salon, dont on vous parle souvent. Et là, on se met à chatter, comme on peut dire, entre deux parties de jeu, puis oui, ah oui, t'es au Canada, hein, parce qu'il y en a partout dans le monde, des gens sur le salon, ah, t'es au Canada, t'es même à Longueuil, t'es juste à côté de Montréal, et là, parle, jase, on se rend compte que non seulement ça, mais on vient tous les deux de l'Abitibi,
Et on a fait le lien que lui savait un peu qui j'étais et moi aussi. Et c'est de là que je l'ai approché pour faire connaissez-vous. Et bon, nos horaires assez chargés tous les deux ont fait en sorte qu'on s'est rencontrés seulement pour la première émission de la saison 2017-2018 qui a commencé à l'automne, en septembre, le 1er septembre pour être précis. C'était l'émission 19 avec Éric Sirois. Et là, vous allez voir que non seulement ce qu'il nous raconte un ton dramatique, parce que c'était dramatique, mais on sent l'émotion, on sent le malaise aussi qu'il y avait entre nous, parce que je vous rappelle que c'était la première fois qu'on se rencontrait. On s'était parlé au téléphone, mais c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et quand je voulais sélectionner l'extrait ces derniers jours, j'ai dit, mon Dieu, qu'on n'avait pas l'air à l'aise, on avait l'air comme un peu embarrassé de tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, on est devenus des très bons amis, donc ça serait très différent de refaire l'entrevue aujourd'hui. Mais dans le contexte, vous allez voir, c'est assez dramatique, mais je vous le laisse quand même vous raconter son histoire. En tout cas, encore une fois, l'incident qui a fait en sorte qu'il a perdu la vue, Éric Sirois.
Ben, au départ, si je me souviens bien de mon secondaire 4, là, c'est une période où ça allait bien. Tu sais, je faisais le transfert, le changement d'école, je m'étais bien adapté, puis ça allait bien, ma première année à la Polino. Je me souviens pas où j'ai commencé à filer moins bien. Ce que je sais, c'est que c'est arrivé progressivement, mais selon moi, c'est vraiment durant le secondaire 5. Ben, à la base, j'étais quelqu'un qui était quand même plus réservé, j'étais pas nécessairement hyper à l'aise à parler comme en public ou... Et là, tranquillement, je commençais à moins filer, à plus me renfermer.
Sans raison apparente, là.
Ouais, j'arrêtais de faire du sport, ça m'intéressait plus. Je m'isolais beaucoup, je sortais presque plus, là. Mes amis venaient me chercher, ben non, je tentais pas, j'avais comme toujours autre chose à faire qui était rien, là. Fait que je m'isolais. Puis je laissais tomber beaucoup d'activités, là. C'est sûr que je commençais une dépression. Mais là, on se reporte en 1985, où... En tout cas, la dépression chez les jeunes, ça n'existait pas encore.
On en parlait à micro fermé, c'est ça.
Ouais,
on ne parlait pas de ça. Il y avait encore moins de services.
On n'avait pas les ressources,
là. On n'avait pas de ressources, puis on n'allait pas, comme tu dis, voir l'infirmière pour dire... On se sent pas bien
ben non,
mentalement.
Si ça saignait pas, t'allais pas voir l'infirmière.
C'est ça.
Puis quel autre intervenant qu'il y avait, c'était l'animateur de pastoral, je pense. C'est comme, il n'avait pas d'autre. Les ressources n'étaient pas là. Puis, mais consciemment, je ne savais pas que je filais pas. Là. Pour moi, j'étais juste peut-être fatigué ou ça me tentait moins.
L'adolescence.
Aussi. Puis là, c'est quand je disais, en autant que je passe, là, c'était vraiment ça. Tu sais, je pouvais dire, ben moi, des 75-80, j'étais à l'aise. Puis, mais là, je...
Ça avait baissé, ça aussi, le
standard, là, c'était 60. C'était ça, la note de passé.
C'était vraiment le de passé, là.
Oui.
OK.
Là, je perdais tout intérêt, là.
Et fait ça, que, oui.
Fait que tout ça, c'est arrivé tranquillement. Tu sais, on le sent pas venir, là.
Mais, c'est progressif.
Oui. À partir de là, j'ai quand même terminé et réussi mon secondaire. J'étais bien fier. En même temps, durant mon secondaire 5, j'ai fait l'armée de réserve à Rouen.
OK.
Puis je me suis quand même permis de finir recrue de l'année.
Quand même? C'est bon?
En dépression.
Oui.
Donc... j'avais une certaine facilité, je pense, à fonctionner, tout en étant là, vraiment inconfortable, puis j'étais pas bien dedans de moi, là, c'était évident. Mais j'arrivais à fonctionner.
Donc, est-ce que ça te prenait comme comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que ça te prenait comme un coup de pied au derrière que tu donnais toi-même, puis ça allait, mais
pas tant que ça. Non. Je faisais mes activités, j'y allais, j'avais pas de problème. Okay. Pas de problème de motivation nécessairement. Mais oui, ça me demandait de l'énergie, par exemple. Mais le fait, comme mettons, je vais dire d'être fonctionnel. C'était dur de détecter que j'allais pas bien. Je parle de mon entourage. Bon, il y en a qui parlent moins, il sort moins, mais...
Il acceptait la situation comme ça, puis...
Oui. À la limite, je sais pas ce qu'on pourrait dire, c'est la crise d'adolescence ou... Je sais pas, là.
Qu'on vit pas tous de la même façon.
Ben non, c'est sûr. Fait que tout ça...
Puis tes parents non plus?
Non, on peut pas penser que... Il faut peut-être voir qu'il va moins bien, mais pas de la pensée qu'il pouvait être en dépression majeure.
C'est ça.
Ouais. Donc, de ce moment-là, la dernière fin de semaine de juin, je suis seul à la maison.
Là, c'est après le bal puis tout ça, là.
Ouais. Ah, ben, le bal, j'ai même pas été. J'avais aucun intérêt à aller là.
Ah, t'as pas été au bal?
Non, non. OK. J'avais aucun intérêt à aller là. J'étais à la limite, là, pour avoir une photo dans l'album de finissant, là.
Ah, OK.
Ah non, je voulais pas me voir sur photo, j'étais pas bien, là.
Mais est-ce que tu... Ouais, mais tu dis je voulais pas me voir. Est-ce que tu avais un problème de perception de toi-même? Est-ce que tu te considérais, je sais pas moi, pas à la hauteur de...
Ben c'est ça la dépression, c'est que la perception de soi, elle est très négative.
À tout niveau?
Oui, oui. Donc, c'est ça, là. Quelque part, j'avais pas le choix d'en arriver là, quasiment. Mais c'est ça.
Donc là, tu disais, au mois fin juin, t'étais chez toi.
Ouais, mais je suis seul pour la fin de semaine.
OK.
Bon, mes parents sont partis pour la fin de semaine. Mon grand frère ne demeure plus à la maison. Mes petits frères étaient partis à leur camp. Et, bon, je suis tombé sur une arme à feu où... Ça a été vraiment par hasard. C'est pas ça que je cherchais, mais je l'ai trouvé. Puis le fait d'avoir été dans l'armée, bien, j'ai appelé mon meilleur ami. Bon, on était tirés dans un champ. Regarde, l'Abitibi, c'est grand, c'est vaste. Puis il y a de la place pour faire des niaiseries. Puis je m'étais dit, l'arme, je la serrais pas parce qu'on va retourner tirer le lendemain.
OK.
Fait que j'ai pas serré le pistolet. Le soir, on est éveillé. Avec mes chums. Je sortais pas beaucoup, mais là, c'est-tu parce que l'école était finie ou... On a passé une belle veillée. On a été niaisés un peu avec l'auto. J'ai une belle contravention. Il était quand même le milieu de la nuit. Je suis rentré chez moi. À ce moment-là de ma vie, j'avais jamais pensé au suicide. Je dirais la pensée suicidaire la plus concrète que j'ai eue, ça serait... Serais-tu le fun de pas se réveiller le lendemain matin?
OK. Donc, on se couche... On se réveille pas.
C'était ma pensée suicidaire la plus concrète toute l'époque. Je dirais de mon secondaire 5, là. J'y pensais des fois en me couchant le soir. Serait-tu le fun de pas se réveiller? Mais ça a jamais été, j'ai jamais pensé à un plan ou à passer à l'acte. Ça s'est jamais, jamais fait.
OK.
Mais le fameux soir où je suis rentré, là, j'étais débiné, le ticket, j'ai mis ça sur la table, puis le gun, il était à côté. Je suis tombé en état de crise, en état de panique. Je me contrôlais plus. Fait que moi, une tentative de suicide, j'y ai pas pensé, je l'ai fait.
Bang! Tout simplement.
Ben, je me souviens de certains... Cette période-là est vague un peu, là. C'est vraiment des flashs. Je sais que j'ai écrit une lettre. Je sais d'avoir fait certains gestes, puis ça... Je trouve ça un petit peu capotant, là. J'ai fait ça au sol... Puis j'ai pris la peine d'étendre des sacs de poubelle partout pour pas salir. Je voulais pas déplaire. Fait que ça... c'est ce que j'appelle la maladie d'Yvon, là, qu'est-ce qu'ils vont dire, ça va loin, là.
Ouais.
Je voulais pas déplaire. Fait que ça allait jusque-là, là. Fait que tu sais, c'est... oui, c'est une dépression majeure, c'est un trouble de santé mentale, c'était jusque-là.
J'avais pas réalisé avant maintenant, mais on passe de la première émission de septembre à la dernière émission du mois de décembre. Et là, c'est l'émission numéro 34. Mon invité cette journée-là, c'est Serge Poulin, que plusieurs personnes connaissaient aussi. Et moi, ça faisait longtemps aussi que je voulais rencontrer Serge, parce qu'on se rencontre dans toutes sortes d'occasions. Serge et moi, on jase toujours beaucoup, on a toujours beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, ben pourquoi pas pour connaissez-vous? Et Serge a accepté, malgré qu'à ce moment-là, il venait, ça faisait pas tellement longtemps, en tout cas, qu'il avait accepté un nouvel emploi, puis tout ça. Et il m'a accueilli chez eux, on a fait l'entrevue, ça a été très agréable aussi. Mais encore une fois, Serge a eu des révélations qui m'ont jeté sur le derrière. Il nous raconte le tout début de sa vie, la naissance, comment on s'est aperçu qu'il était non-voyant et ce qui a causé sa non-voyance aussi. Et un petit peu les mentalités des gens. Hein. Et là, je vous fais une révélation que Serge va vous faire lui-même, mais on se rapporte au début des années 60, hein, quand même pas aux années 1800. Là. Début des années 60, mentalité de l'époque et ce qui m'a renversé, je vous laisse, Serge, vous le raconter.
Alors, écoute, je suis né en 1962, à Sainte-Croix-de-Binière. Pour situer les gens géographiquement, Sainte-Croix-de-Binière, c'est un petit village sur le bord de l'eau, sur la rive sud de Québec, à environ une vingtaine de kilomètres du pont de Québec, je dirais, en vous en venant vers l'ouest, donc en vous en venant vers Montréal. Alors, c'est un petit village sur le bord de l'eau, c'est une belle petite place. Je suis le bébé d'une famille de cinq. Il y a trois filles puis un autre garçon. Les garçons ont fait les extrémités. Mon frère est plus vieux, moi je suis plus jeune.
Ah, OK.
Et les trois filles sont en milieu.
Voilà.
Alors, je suis né dans la maison chez nous, parce qu'à l'époque, quand tu étais en campagne, tu venais pas au monde dans les hôpitaux, ou en tout cas rarement. Alors, à un moment donné, ma mère avait des douleurs, puis mon frère a été chercher le médecin, puis ça s'est passé là, dans le lit de mes parents, finalement. Je suis né là, et ma mère avait manifesté au médecin après ma naissance que j'avais, il avait fait remarquer que j'avais un trou sur le bord de l'œil, puis il disait, faites-vous-en pas, Madame Poulin, j'ai pris des forceps, c'est pour ça que ça fait ça. Fait que ma mère, en tout cas, elle était perplexe parce que j'en ai quand même eu quatre avant lui, puis j'ai jamais vu ça, mais bon, elle se disait peut-être les forceps, c'était ça. Fait que finalement, au bout de 5-6 jours, ça semblait pas se guérir, cette affaire-là, puis ça semblait même vouloir enfler. Alors, elle m'emmenait à l'hôpital Saint-Sacrement dans la ville de Québec. Et c'est là qu'on a détecté que j'avais une malformation des yeux, en fait. J'avais beaucoup d'infections dans les yeux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé ça avec des acides. Et ils avaient peur de que ça se conduise, ça se répande dans mon autre œil. Alors, ils ont mis de l'acide dans l'autre aussi. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu aucun développement des yeux. Avec le total des deux yeux. Sinon, j'aurais pu avoir un œil. Mais en réalité, je suis une victime d'athalidomide. L'athalidomide, c'est un médecin que les femmes prenaient pour éviter d'avoir des nausées à cette époque-là. Et donc, c'est pas comme dans mon dossier qui dit malformation congénitale, parce que les médecins, plusieurs d'entre vous le savez, que les médecins, quand ils ont vu qu'il y avait tous des recours collectifs, c'est un médicament hyper dangereux, mais ils ont pris des dossiers, ils déchiraient, puis ils en faisaient d'autres, puis ils marquaient malformation congénitale. Alors, dans mon dossier, si tu vas voir les fiches, ça va être ça. Mais dans les faits, je suis une victime de thalidomide. Mais même dans le recours collectif qui a eu lieu, je sais pas, dans les années 90, quelque chose comme, je suis pas très bon dans les dates comme certains de des gens que tu as rencontrés. mais il y a eu un recours collectif et on n'était pas capable de prouver que c'était la thalidomide qui faisait ça parce que j'étais le seul cas au Canada qui avait juste un problème au niveau des yeux. La plupart des gens ont des problèmes, ont peut-être eu des problèmes au niveau des yeux, mais accompagnés de déformations quelconques, soit des petits bras, soit des déformations au niveau du visage.
OK, ça pouvait être plus...
Exact. Mm-hmm. C'était ça pour la plupart des gens. Ce que j'ai su depuis, par ailleurs, c'est qu'on en a répertorié des cas en Alberta, à Calgary notamment, dans certaines autres provinces aussi. On a trouvé des personnes qui...
ben, comme moi, ont eu des problèmes uniquement au niveau des yeux.
Sauf que, bon, ils en ont répertorié d'autres, mais dans ta famille, il n'y en a pas d'autres.
Non. Dans ma famille, il n'y en avait pas d'autres. Puis, j'ai pas pu faire partie du recours, parce qu'évidemment, le recours, il est fini. Puis, les gens qui ont répertorié, ben, c'est comme moi, c'est too late. Oublie ça. C'est... Alors, donc, mais c'est pas grave. Ma mère s'en est voulu longtemps, parce que la seule façon dont on aurait peut-être eu une mini-chance, ça aurait été que ma mère ait encore en sa possession des bouteilles de Thalidomide, ce qu'elle n'avait plus.
Ben oui, mais là...
D'ailleurs, elle l'a regretté toute sa vie, mais moi, j'avais expliqué, je me mets, écoute.
On garde pas nécessairement ça.
En tout cas, moi, j'ai jamais gardé mes bouteilles de Tylenol et autres. Je me disais, s'il arrive de quoi, ça arrivera, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est ça. Je suis né à Sainte-Croix-de-Loubinière, dans un petit village-là. J'ai grandi là jusqu'à 4-5 ans. Évidemment, là, mes parents ont eu l'échec de leur vie, finalement. Ma mère a vécu sa culpabilité, parce que là, sachant que...
Ok, ça c'est pas... C'est, ça a été...
Ah non, ça a été instantané. Dès qu'ils ont mis les acides dans mes yeux, comme je te dis, c'était évident que je verrais plus ni d'un œil ni de l'autre. Et ça a été l'autre problème. C'est que s'ils avaient pas mis l'acide dans mon œil droit, j'aurais probablement une vision parfaite. Mais bon, c'était des religieuses à l'époque qui avaient ça avec des médecins, en tout cas. Tu sais, c'était les années 60, là. Il y avait même pas l'assurance maladie encore à l'époque.
C'est drôle, hein, parce que ça nous paraît... Ça nous paraît pas si loin des années 60, mais c'est là qu'on se rend compte un peu des limites de l'époque.
Ah, effectivement. Alors, mes parents ont dû payer 7 600 $ pour une chirurgie plastique pour mon œil. Et c'était beaucoup d'argent pour l'année 60.
À cette époque-là,
mes parents ont dû s'endetter, hypothéquer la maison et tout et tout. Je pense qu'ils ont fini de payer ça, genre, 1975, quelque chose comme, Fait que non, à l'époque, on payait les soins.
Et là, Serge, ça a été quoi, toi, ton premier souvenir? C'est où que tu as commencé à t'apercevoir de ton handicap? Parce que, bon, tes parents le savaient, tout ça. Tes frères et sœurs plus vieux, ils devaient te dorloter quand même, vu que tu étais le plus jeune. Puis, est-ce que tu as des souvenirs de ça un peu?
Oui, j'ai des souvenirs de ça, mais moi, mon père avait... Parce que, encore à cette époque-là, Martin, toi, c'est une époque que tu connais pas, mais... Encore à cette époque-là, on cachait les personnes qui ont des handicaps.
Ah, mon Dieu!
Ah oui, on les cachait dans les greniers pour pas les voir. Bien sûr, dans beaucoup de cas, dans les campagnes particulièrement. Et moi, le frère de mon père, qui faisait des études universitaires à Montréal, il avait dit à mon père, si jamais on arrive et tu caches ton gars, tu vas le perdre. Bon, comment il aurait pu faire ça dans les faits, je ne sais pas. Mais mon père a eu très peur de ça. Alors, mon père, vite, m'a amené à faire les mêmes choses que tout le monde, ben le mieux possible, on va le dire comme ça. Fait que j'étais très dorloté, mais en même temps, mon père, c'était comme, OK, tu veux faire telle chose, ben, tu vas le faire, mais avec les conséquences que ça a. Fait que, quand je te dirais que j'ai commencé à découvrir, ben, jouant au ballon, des affaires de même, je comprenais pas pourquoi elles étaient beaucoup plus vite que moi, parce que mes soeurs, c'est sûr, je lançais le ballon de poignet, là. Mais de poignet bois. Mais ça, sur le coup, je réalisais pas, c'est quand j'ai commencé, ben, à ma première année, je te dirais, à l'école Jean Talon, à Québec, là, je revenais avec mes livres, puis je voulais montrer mes devoirs à ma sœur que j'apprenais à écrire en braille, puis elle me disait, ben, je suis pas capable de les lire. Là, j'ai fait comme, oh, non, on n'est pas dans la même vie, là.
Ça va très, très vite, ce petit spécial. J'espère que vous aimez, j'espère que vous appréciez les extraits que j'ai choisis. Maintenant, je passe à une émission très spécial. Je fais un petit saut dans le temps aussi, assez important. Je vais revenir à une émission d'avant, après, vous allez comprendre. Je passe à l'émission 61. L'émission 61, elle a été mise en ligne le 19 octobre 2018. Et mon invité, c'est Sébastien Dagenais. Et Sébastien, je vais vous raconter un peu comment je l'ai rencontré. Vous allez comprendre un peu qu'on rencontre des gens dans toutes sortes de circonstances et que c'est pas toujours dit non plus qu'on va rencontrer cette personne-là, qu'on va lui parler, qu'on va avoir des affinités avec et surtout pas qu'elle va venir nécessairement au micro de Connaissez-vous. Donc Sébastien Dagenais, je l'ai rencontré à l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, la SAM, dans le cadre du Tour de l'île que la SAM organise à chaque année. Et je l'ai croisé très brièvement parce que Sébastien, il va d'ailleurs vous le dire dans l'entrevue, il est introverti. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va beaucoup vers les autres et qui parle nécessairement très fort. Donc, dans un groupe de non-voyants, des fois, on a peut-être tendance à l'oublier un peu. Mais voyez-vous, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être 2 ans, en 2019, en 2018 plutôt, la SAM a organisé un voyage à Gatineau auquel j'ai pris part et Sébastien aussi. Et on s'est retrouvés dans le même véhicule pour se rendre à Gatineau, puis pour revenir à Montréal par après. Et là, bon, on avait comme à peu près 2 heures pour jaser, et on aurait pu ne pas jaser non plus, mais on a jasé, Sébastien et moi, et Sébastien m'a raconté son parcours, qui, encore une fois, m'a renversé, et aussi que j'ai dit à Sébastien, ben si ça t'intéresse de venir le raconter à Connaissez-vous, bien moi, ça me ferait plaisir. Et j'ai été très surpris, mais il a accepté. Et non seulement il a accepté, mais ça s'est fait. On a enregistré ça un mois et demi plus tard à peu près. Et la journée de l'enregistrement, ça a été très spécial aussi. Et je vous le raconte. Parce que ça, c'est pas dit dans l'enregistrement. Sébastien habite dans un bloc de la Fondation des aveugles du Québec, dans un bloc où je connais d'autres personnes, et j'avais déjà été dans son immeuble, mais j'étais toujours allé en transport adapté. Et cette journée-là, je m'étais dit, bon, il fait beau, tout ça, je vais y aller en métro. Et rendu au métro, il y a une dame qui m'a offert de l'aide et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour me rendre où je m'en allais. Et finalement, elle est venue me reconduire jusque chez Sébastien. Mais quand je suis arrivé chez Sébastien, le ciel est devenu vraiment très, très sombre. C'était pas mal sûr qu'il allait avoir un orage. Et j'ai sonné chez Sébastien. Sébastien m'a fait entrer. Je suis monté chez eux. Et rendu chez eux, c'était le déluge. Ça fait que j'ai pensé beaucoup à la dame qui a dû se faire mouiller, c'est sûr. Et Sébastien a ouvert les fenêtres, il a fermé l'air climatisé, et on entend la pluie dans l'enregistrement, et j'ai tellement trouvé que ça avait donné une ambiance intéressante, et j'en garde vraiment un souvenir. Mais là, je vais vous laisser, Sébastien, vous raconter, je vais me taire un peu et je vous rappelle juste que c'est l'émission 61 du 19 octobre 2018. Voilà Sébastien Dagenais.
J'ai travaillé comme agent de sécurité de 2001 à 2008.
OK.
Pendant 7 ans. Là, en rentrant en 2008, j'avais... parce que dans la sécurité, le problème, c'est que tu n'as pas toujours ton 40 heures. Ça dépend. Des fois, tu peux avoir juste 24 heures par semaine.
OK, ils peuvent pas te garantir...
Ils peuvent pas te garantir ton 40 heures à toutes les semaines.
OK.
Ça dépend des contrats qu'ils ont. T'sais. Fait que j'étais tanné parce que en 2008, là j'avais juste 24 heures par semaine. Puis tu sais, quand tu as un loyer à payer, c'est pas facile, t'sais.
Puis on peut dire aussi, peut-être, je sais pas, que tu avais eu un enfant aussi.
Oui, en 2008, oui, j'avais... J'avais eu ma fille, Mélodie, qui est née le 15 décembre 2006. Alors, puis, bon, ça allait pas bien au travail, ça allait pas bien à la maison non plus. Alors, mon père, il m'a appelé. Puis il m'a dit que lui non plus, ça allait plus bien avec sa blonde, puis que si je voulais, à ce moment-là, je pouvais aller vivre avec lui. Puis à l'époque, comme je t'avais dit tout à l'heure, quand j'étais ado, ben là, j'étais trop rebelle pour ça. Ça n'allait pas fonctionner.
Ah, mais là,
mais là, plus tard... j'ai accepté son offre. J'ai dit, OK, père, j'ai dit, je vais aller...
Ça faisait comme une occasion aussi de te rapprocher de ton père.
C'est ça.
Dans des moments où vous deux, ça allait plus ou moins bien.
C'est ça.
OK.
Respectivement.
C'est quand même intéressant.
Lui avec sa blonde, puis moi avec la mienne, ça allait plus bien, bien. Fait que j'étais allé vivre avec lui. Lui, à l'époque, il vivait à Green Bay. J'étais allé vivre, j'ai vécu de 2008 à 2009 avec lui. Puis, en rendu en 2009, moi puis mon ex, on continuait à se parler au téléphone, puis ça a donné que, bon, on a réessayé de vivre ensemble. Fait que là, je suis parti, avant, faudrait que je vous explique, quand je suis arrivé avec mon père en 2008, mon père, c'est un ancien chauffeur d'autobus de la STM.
OK.
Qui m'a dit, essaye donc d'appliquer à STM. Il cherche des chauffeurs. Okay. J'ai dit, OK. Fait que j'ai appliqué à l'STM pour devenir un chauffeur d'autobus en 2008. Mais, bon, c'est long, leur affaire. Il faut que tu passes avant qu'ils prennent toutes les applications.
Ah, il y a comme tout qu'un processus.
Ça peut prendre un an ou deux, tu sais.
OK. Oh, mon Dieu, OK.
Ouais, ouais. Tu passes un médical, puis il faut que tu passes... plein d'affaires.
OK, c'est que le processus est long.
Deux, trois entrevues. Ben ouais.
Là, j'imagine qu'entre-temps, tu sais pas, il faut que tu attendes.
C'est ça. Uh-huh. Entre-temps, j'ai là, vu que moi et mon ex, à l'époque, on s'était comme réconciliés, ben, j'ai dit à mon père, ben je vais réessayer d'aller vivre avec ma blonde, puis merci pour l'hébergement, tu sais. Fait qu'il dit, c'est pas de problème, mon gars, il dit... Il dit, si ça marche pas avec ta blonde, tu veux revenir, ma porte sera toujours ouverte pour toi. J'ai dit, ah, OK.
T'avais une belle relation.
Je peux pas dire qu'on n'a pas eu de friction, moi, avec mon père, mais ça avait quand même assez bien été.
OK.
Fait que, mais là, en 2009, je suis venu à Montréal, parce que ma blonde vivait à Montréal-Nord. Fait que, puis c'était drôle, avant que j'en revienne vivre avec elle, je faisais des fois la distance entre Granby-Montréal, puis Montréal-Granby. Puis c'était vraiment la différence entre... parce que quand je dis Granby, c'est plus une banlieue de Granby. Mon père restait à Sheffield.
Okay.
Il avait acheté une maison mobile à Sheffield. Ça, c'est une banlieue de Granby. Puis, en arrière, on avait une ferme avec des vaches puis des bœufs. Fait que, dans ma cour en arrière, l'été surtout, j'ouvrais ma fenêtre puis j'entendais les vaches. Fait que, peux-tu vous dire que quand j'arrivais à Montréal-Nord, c'était une méchante différence. Là, les bœufs, ils étaient sur deux pattes au lieu d'être sur quatre pattes. C'était tout un dépaysement. Le 1er octobre 2009, j'ai réessayé avec ma blonde de l'époque. On a vécu ensemble, mais ça n'a pas duré un an que ça ne marchait plus bien. Mais en même temps, juste à l'automne 2009, au printemps 2010, j'ai commencé à avoir des symptômes de ma maladie. Dans le fond, c'est ce que j'avais, c'était une tumeur au cerveau. Ce que j'ai eu. Ouais. Puis au printemps 2010, ben là.
Ça se manifestait par quoi? Par des étourdissements.
Des étourdissements, des pertes d'équilibre. Puis.
C'est arrivé quand même assez subitement.
Oui, quand même. Au printemps 2010, j'ai commencé à avoir des symptômes.
C'est ça.
Puis je me suis fait opérer le 29 septembre. 2010.
OK.
Fait que, entre le printemps puis l'automne, là. Fait que, il y a 6 mois, là, que j'aurais pu aller consulter avant. Mais, peut-être parce que je suis un gars, je sais pas. Je savais que j'avais de quoi. Mais, en même temps, je voulais pas trop savoir quoi. Puis, tu sais, je me disais, mais regarde, si on se dit dans ce temps-là, c'est peut-être le cancer, fait que je voulais rien savoir de ça.
OK.
Je voulais pas le savoir, tu sais. Je m'en doutais un peu, mais je voulais pas le savoir.
Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis ça
t'a... Mais à un moment donné, c'est que... c'est que en ce moment-là, je vivais encore entre ma blonde, puis... Parce que je m'étais pogné avec, mais... J'avais été retourné vivre avec mon père, mais j'avais entre-temps c'est là que, à ce moment-là, je vivais entre Montréal, Green Bay.
C'est beaucoup de voyagements.
Ouais, beaucoup de voyagements. D'ailleurs, mon téléphone, je le changeais à tout bout de champ. Puis là, ben, à un moment donné, ici, c'est 514. À Green Bay, c'est 450.
Ah.
Fait que là, quand j'étais à Green Bay, puis j'avais mon téléphone 514, mais là, je payais des frais d'itinérance. Fait que là, puis quand j'étais à Montréal, puis mon téléphone était à 450, mais je payais encore des frais d'itinérance. Fait que, puis à ce moment-là, c'est ça, quand j'ai eu des symptômes, ben, c'est que j'ai vécu, j'avais un médecin de famille à Grand Bay, j'avais été le voir, mon père m'avait dit, va voir ton médecin de famille. Fait que j'avais été le voir, puis lui, il m'avait rien vu. Il avait dit, tes yeux, je vois rien, ils sont bien corrects. Il dit, mais moi quand même voir un ophtalmologiste de Grand Bay.
OK.
Fait que, mais mon médecin de famille m'a dit, mais je te conseillerais de ne plus prendre ton auto. Mais ce matin-là, j'avais dit à ma blonde que après aller voir mon médecin, j'irais la voir. Fait que j'ai pas écouté mon médecin. J'ai pris mon auto, puis je vais aller voir ma blonde. Fait que rendu la Grand Bay puis Montréal, c'est, tu prends la 10, puis tu prends le tunnel La Fontaine. Fait que, puis cette journée-là, il faisait gros soleil. Puis là, à ce moment-là, quand je suis rentré dans le tunnel La Fontaine, déjà quand il fait gros soleil, ben c'est les yeux, ça prend un peu de temps pour...
c'est éblouissant.
C'est ça.
Mm-hmm.
Puis il fait noir dans le tunnel. Fait que, mais là, pendant 2-3 secondes, je voyais plus rien. Plus rien, pantoute, Martin. J'étais en arrière de mon volant, là. Ouais, dans le tunnel.
Oh.
Fait que, dans le fond...
ça a dû être des secondes très longues.
Ah oui, 2-3 secondes, c'est pas long, mais c'était assez long, merci, quand tu vois rien. Puis là, je savais qu'il y avait un auto en avant de moi, là. Fait que je voulais pas rentrer dedans. Fait que je roulais pas vite. Puis je peux dire, Martin, que je tenais mon volant assez serré, merci. Fait que, tout ça pour dire que je me suis dit, mon Dieu, merci, j'ai passé le tunnel. Mais là, j'étais rendu à Montréal. Et là, je me dis quand même, il faut que je retourne à Sheffield. Fait que, j'ai pris une chance encore. Puis là, mais là, c'était le soir. Fait que, j'ai passé la journée avec ma blonde. Puis le soir, je suis revenu à Grand Bay. Puis, j'ai dit, bon, là, ça suffit, par exemple. Le highway, c'est fini.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire un saut dans le temps, même dans cette émission spéciale, parce que je voulais passer les extraits un peu plus dramatiques, puis finir avec ce qu'on pourrait appeler les extraits plus comiques. Et là, il y en a, c'est sûr, j'en entends déjà qui ont écouté toutes les émissions et qui me parlent encore de cet extrait comique. Et elle est dédiée à mon très cher ami Miguel Ross. Et Miguel, je ne sais pas s'il le sait, mais je lui annonce aujourd'hui, il a probablement manqué une carrière d'humoriste. Il pourrait sûrement même peut-être... en faire une, il serait peut-être pas trop tard. Et je vous explique pourquoi, c'est que Miguel, c'est une des premières personnes que j'ai connues, moi, quand j'ai commencé mon parcours à Jacques Ouellet, qui n'était pas encore Jacques Ouellet à ce moment-là, c'était l'Institut Nazareth et Louis Braille, en 1983. Et Miguel, je l'ai connu parce que on prenait le même autobus scolaire. Et forcément, bon, deux petits gars de à peu près du même âge, hein, qui se mettent à parler, puis Miguel, bon, Très curieux. Il était rendu déjà, je pense, en quatrième année, Miguel. Moi, j'étais en deuxième année, quelque chose comme ça. Donc, on parle, jase, hein. On se fait des amis facilement et un ami déjà dans l'autobus. Ça commence très bien. Donc, Miguel, c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui parlait beaucoup, qui a déplacé beaucoup d'air dans l'école. Mais avant d'arriver à l'école, il a fait sa maternelle dans son école de quartier. Et c'est ça que je veux qu'il vous raconte aujourd'hui. C'est son arrivée dans son école de quartier avec sa professeure très spéciale. Alors, je vous le laisse vous expliquer ça. 6 avril 2018, émission numéro 47, avec Miguel Ross.
Ben, c'est parce que, premièrement, le fameux professeur qui était là, d'abord, il fallait l'appeler ma tante Thérèse.
Ma tante?
Ah oui, oui.
Ma tante? C'est la première fois que j'entends ça. Ma tante
Thérèse.
Un professeur qu'on doit appeler ma tante. Okay.
Ma tante Thérèse. D'accord. Et crée-moi que cette ma tante Thérèse-là était quelque chose. C'était toute une ma tante Thérèse. Laissez-moi vous dire ça.
Et comment qu'elle percevait ça, elle, avoir un quelqu'un avec un problème de vision?
Dans elle avait de la difficulté avec ça. Elle avait de la misère au niveau du fait que je voyais pas, puis tout ça, tu sais. Puis, je t'avoue que on pourrait dire, pas élever les enfants, tu sais, pas apprendre à enseigner, dresser. Je dirais dresser plus qu'enseigner.
OK, toi, c'est dresser le terme que tu utiliserais.
Oui, okay. Oui.
Et là, concrètement, Miguel, qu'est-ce que tu te souviens de...
Oh, je me souviens de tout. Je peux tout raconter ce que cette tante Thérèse faisait.
Ben, donne-nous un exemple concret, là, parce que je pense que tu as piqué notre curiosité.
Donc, cette tante Thérèse, ce qu'elle faisait, c'est que le matin, au début, quand les parents étaient là, parce que il faut comprendre que j'ai su que quand on rentrait à la maternelle, dans les débuts, au tout début, la mère ou le père venait surveiller devant l'école, voir si tout se passait bien dans la classe.
OK.
Donc, au tout début, quand ma mère était là, évidemment, la tante Thérèse, elle faisait sa file, en quelque part.
Oui.
Donc, elle disait aux gens, quand c'était le temps qu'elle voulait parler pour toutes les élèves, elle disait « silence ». Fait que là, les gens se taisaient, puis tout ça. Mais de la minute que les parents sont partis, c'était plus silence. Un coup de sifflet.
Comme pour les chiens.
Exactement, là. Un gros coup de sifflet, là.
Ah, oh, bon.
Tu sais, improvisation mixte qu'il y a pour titre, là. Ben, c'est à peu près ça, là. Comme un arbitre, là. Un coup de sifflet, là. Tu
sais? OK.
Et puis, évidemment, ben, c'était quasiment comme à l'armée, là. Tu sais, quand c'était le temps de la sieste, elle nous disait sieste. Fait qu'il fallait aller chercher nos serviettes, les mettre par terre puis se coucher. Puis là, pour essayer de nous endormir, ben, elle nous chantait le Haut Canada.
Ben, voyons donc.
Je te le jure, elle nous chantait le Haut Canada. Puis elle m'a dit, ben, qu'est-ce que tu veux, moi, curieux comme je suis? Oh. Ben là, je disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, elle me disait, hey, tais-toi, toi! Fait que là,
ben voyons donc. Au Canada.
Ben oui.
Hey, si on le chantait ensemble.
Puis avec la voix de Grébiche, là. Au Canada.
Oh boy.
Ça terre de nos aïeux.
Ça devait être de toute beauté.
Oh, que c'était beau.
Mais
c'était...
est-ce que vous vous endormiez avec ça?
Pas à tout. C'est quand tu n'as pas moué. Tabarnouche.
Oh boy!
Tu sais, elle nous donnait pas les explications, c'était toujours la même rengaine à tous les jours, là.
OK.
Tu sais? Vraiment, là.
Et là, OK, ben, est-ce que c'est l'événement le plus marquant, ça, Miguel?
Ben, c'est que elle, disons que elle s'occupait des autres, mais elle s'occupait de moi à moins. Fait que tu sais, tu voyais qu'elle acceptait pas le fait que tout ça.
C'est que ça, toi, déjà, tu l'as senti, que oui, t'étais à part.
Oui.
Et là, bon, en maternelle, on fait plein d'activités quand même qui demandent.
Ah, pour y participer, j'y participais, par exemple, aux activités. C'est juste que tu voyais que quand j'essayais d'y parler, elle était très distante. Okay. Par chance, il y avait Marie-Paul, sœur Marie-Paul Arsenault qui était là.
Ah, OK.
Qui m'a quand même accompagné le long de la maternelle parce que, écoute, je suis pas sûr que, avec tante Thérèse tout seul, j'aurais fait quelque chose de miraculeux.
OK.
Tu sais. Donc, j'ai, pour aussi bien dire, à un moment donné, il y a un événement, par exemple, qui est comique, mais qu'en réalité, c'était pas trop comique, mais ma mère, elle avait pris ma défense cette fois-là. C'est que à toutes les fois qu'il fallait que j'aille à la toilette, il fallait tout le temps qu'il y ait un petit gars ou une petite fille qui m'accompagne dans les toilettes, parce que ma tante Thérèse voulait pas que j'y aille tout seul dans les toilettes.
OK.
Puis les autres, ils allaient tout seuls dans les toilettes. Fait que là, à un moment donné, je me suis écœuré. Parce que j'étais écœuré, tu sais, moi, quelque part, j'avais beau être petit... Mais mon intimité dans les toilettes, je pouvais-tu pisser tranquille dans les toilettes?
Pourquoi? Est-ce que tu étais plus petit que les autres à ce moment-là?
Non, non, mais je veux dire, même si j'étais un petit
peu de 5 ans... que tu étais handicapé. Oui, oui, mais vous aviez tous cet âge-là. Là.
Ben oui.
C'est que c'était plus par rapport à ton handicap que...
Qu'elle me faisait accompagner. Mais tu sais, moi, le petit gars, il voyait tout là ce qui se passait. J'étais là, voyons...
Oui, oui, non, non, OK. Mais je comprends.
Fait que je m'étais arrangé à un moment donné avec le petit gars, un des petits gars qui m'accompagnait puis qui m'aimait beaucoup. Là, j'y avais dit, écoute, là, pour l'instant, reste en dehors de la toilette, là.
Je suis capable.
Je vais te montrer que je suis capable, mais c'est parce que je veux pas que tu vois ce qui va se passer. Ça, c'est ma mère qui me l'a conté, OK? Ça, je m'en souvenais pas, mais faut dire que j'ai fait... De toute façon, j'ai toujours été, moi, dans la vie, fonceur. J'ai toujours voulu faire valoir mes points. Puis, quand ça marche pas, ça marche pas. Puis, c'est bien de valeur, mais tu vas le savoir. Tu sais? Fait que, à un moment donné, je suis dans la toilette. Je pogne le couvert du réservoir de la toilette. Puis, je le pitch dans les airs, puis je le fais tomber à terre. Casse le couvert du réservoir de la toilette. Évidemment, quand tante Thérèse entend du bruit, là... Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, elle s'est envenue, puis elle a constaté le dégât, évidemment. On a demandé à mes parents de venir me chercher, parce qu'évidemment, eux autres, ils acceptaient pas ça. Quand ma mère a eu l'appel de l'école de Maricourt, elle a dit, écoutez bien, là, vous êtes même pas capable de le laisser, ne serait-ce qu'autonome, une minute pour aller aux toilettes. Il a bien fait de le faire, avez-vous compris? Mais que finalement, le restant de l'année, j'ai pu aller aux toilettes tout seul.
Alors, quand je vous disais petit comique, hein, je pense que j'avais quand même pas complètement tort, mais allez-vous-en pas trop loin parce que j'ai décidé, comme Miguel, c'est notre humoriste de service, j'ai décidé de mettre un deuxième extrait avec Miguel. Un petit peu plus court, celui-là, mais quand même assez assez quelque chose, je vous dirais. Et alors que là, il est rendu à l'école adaptée et qu'il continue à faire son exploration de petit garçon tannant et curieux. Donc, deuxième extrait avec Miguel.
Fait que l'idée, c'est qu'à un moment donné, ben, on a eu le malheur, OK, quand j'allais me baigner à piscine, on a eu le malheur de me montrer le petit local où était situé le filtreur à piscine. Évidemment,
ça devenait un nouveau
le sens. Le petit local était barré.
Mm-hmm.
Mais il y a quelqu'un, un jour, qui a eu le malheur de le laisser débarrer.
Oh, non.
Oh, quelle joie! Donc, je suis rentré dans cette salle du filtreur de piscine et j'ai commencé à tatiner un peu partout. Et je voyais qu'il y avait des valves de tout ça.
Oh non! Okay.
et je me suis amusé à les tourner. Et je voyais que le bruit changeait. Et tout, tout.
Là, il y avait des gens dans la piscine.
Oui, oui, absolument. Puis là, à un moment donné, l'autre
s'est mis à monter. Toi, t'aurais dû être dans la piscine ou...
Non, non. C'était une autre classe qui était là. C'était ma classe. Fait que là, l'eau s'est mis à monter. À un moment donné, s'est mis à baisser. À un moment donné, elle s'est mis à refroidir, à réchauffer. En tout cas, j'ai joué avec ça un bon bout de temps. Un moment d'aller... Mais le pire, c'est parce que j'aurais pu, sérieusement, là, si ça continuait comme ça, là, j'aurais pu faire en sorte de faire une inondation dans le filtreur de la piscine. Là. Parce que les tanks qui étaient là, à un moment donné, ça serait tellement rempli que ça aurait pu...
Ça aurait tout débordé.
Oui, ça aurait... Écoute, ça aurait pu vraiment faire quelque chose de grave. Là, t'sais. Je reconnais...
Oui, mais là, on s'entend que t'étais un enfant.
Oui, oui. Hein?
Curieux de nature, puis qu'il y a quelqu'un qui avait malencontreusement oublié de barrer la porte.
Exactement. Et je voulais tellement l'espérer, je l'espérais. Tu sais, dans la vie, quand on espère quelque chose, là, puis qu'on le veut, là, ben, même si t'es enfant, ça finit toujours par se réaliser par la force des choses.
Et là, ça, c'était quelque chose que tu souhaitais ardemment.
Ah, que je caressais. Absolument. Je le souhaitais ardemment. Je caressais ce rêve depuis longtemps. Donc...
OK. Mais là, à un moment donné, est-ce que quelqu'un est venu te sortir de...
Ben, c'est Gisella qui m'a surpris.
Oh, mon Dieu, Gisella, oui.
Gisella, par contre, elle a été douce, tu sais.
OK.
Elle est venue me voir, m'a dit, Miguel... Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, sur le coup, comme ça a été l'effet de surprise. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais?
Et voilà. Alors, ça fut une émission très comique, vraiment, parce que forcément, on a passé par plusieurs gammes d'émotions. Parce que Miguel, bon, il a été comique. Et après, il a été quand même assez sérieux. Il nous a parlé de ses projets de carrière, de ses difficultés à se trouver des projets, mais aussi de son entreprise qu'il a mis sur pied pour fournir des ordinateurs à des personnes qui en avaient besoin, et aussi de l'arrivée de la paternité dans sa vie qui est arrivée alors qu'il était quand même assez jeune et dont il a accepté de nous parler, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a accepté de nous parler des choses plus personnelles. La connaissez-vous? Miguel, lui, a accepté de le faire. Alors, merci Miguel pour toutes tes tes révélations. Mais pour aujourd'hui, on va te remercier pour les extraits comiques. Le dernier extrait que je vous présente aujourd'hui, c'est j'ai pris ça dans le titre d'une chronique dans le magazine L'Actualité, en commençant par la fin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous vous souvenez que ma première invitée, ça a été Katia Darèche, et Katia, je l'ai réinvitée une deuxième fois pour faire un spécial du temps des fêtes. Et je voulais aussi que dans la première partie de cette émission-là, elle nous raconte un peu c'était quoi avoir une vie publique, étant donné que, pour la plupart, vous le savez, Katia, c'est une chanteuse country qui fait partie de la famille Darèche. Il y a plusieurs personnes qui font carrière dans sa famille. Il y en a qui chantent aussi très bien, même s'ils ne font pas carrière. Mais aussi, Katia a fait de la radio. Forcément, on fait des spectacles, on fait des albums, tout ça. Je voulais qu'elle nous parle de tout ça. Et je voulais qu'elle nous parle de comment ça avait commencé aussi, tout ça. Parce que, bon, hein, ça commence pas... du jour au lendemain, mais ça commence quand même assez jeune et avec certains indices qui arrivent dans nos vies et qui font en sorte que, oui, on pense qu'on pourrait faire carrière et voir aussi si nos parents sont d'accord avec le fait aussi. Mais je vous laisse quand même vous raconter, en tout cas, ces deux premiers moments sur une scène quand même d'importance, un alors qu'elle était très, très jeune et qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Alors, je vous laisse vous raconter ce que Katia a nous raconté là-dessus. C'était l'émission 70 du 21 décembre 2018, un beau spécial pour le temps des fêtes avec mon amie Katia.
Je me souviens très bien d'avoir un enregistrement où tu avais chanté avec ton père à CKLM.
OK.
Et là, je me rappelle pas c'était en quelle année, mais j'étais encore à Longueuil, là, à Saint-Hubert.
Ça ouais. Fait,
c'est entre 1983 et 88, là. Tu sais, ça fait que...
Ouais, c'était à peu près... moi, je pense que ça, là, on était à peu près, ouais, 87-8 à peu près.
Bon,
là.
Mais là,
ouais,
reste 88, que... à peu près. T'as 13 ans à peu près dans
ouais,
ce
ouais,
temps-là.
Ouais, ouais, j'ai 13-14 ans.
Comment ça se passe, là, ça? Dire, bon, là, tu vas chanter avec ton père, oui, mais quand même à la radio.
Ben là, ce qui se passe, c'est qu'en 87, c'est le deuxième été où je suis allée en Gaspésie. Okay. Puis là, j'étais restée vraiment presque tout l'été. Puis là, à un moment donné, mon père avait organisé avec un groupe d'artistes une grande tournée. Et ils appelaient ça la grande tournée Country O'Keefe 1987. Et c'était gros, ça. C'était un gros concept et ça faisait tout le Québec et le Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine pendant tout l'été. Ça s'est promené, ça. Avec, puis il y avait peut-être 6-7 artistes là, dans cette tournée-là. C'était un gros spectacle. Puis quand, pendant que moi j'étais en Gaspésie, bien évidemment, ils sont venus en Gaspésie pendant que j'étais là. Donc, c'est évident que toute la famille allait aller voir ce spectacle-là. Et moi, j'étais là. Et mon père, à partir de là, on avait fait bien des petits parties de guitare avec lui, puis il savait que j'étais sortie de ma coquille, puis tout ça. Puis il aimait ça quand je chantais avec lui, puis on s'amusait. Puis j'avais appris sa chanson « T'envoler », entre autres.
Hey, tu te souviens, en tout cas, c'est quoi que tu avais chanté?
Ah, oh, ben hein? Oui! Puis, à cette époque-là, sur le premier enregistrement de « T'envoler » qu'il avait fait en 84, il y avait une voix de fille qui répondait à mon père dans cette chanson-là. Toi, tu t'en souviens sûrement, Martin?
Oui, mais c'était...
C'était Dany qui Dany, faisait.
C'est ça que je pensais.
Elle prenait une petite voix de tête, là, mais c'était Dany. Elle n'allait pas à pleine puissance, elle voulait rester douce, mais c'était elle. Mais moi, j'avais appris cette partie-là, et quand il est venu en Gaspésie avec la tournée O'Keefe, ben, il m'avait demandé, tu voudrais-tu faire t'envoler avec moi? Puis c'est comme ça, la première fois que... Ben, la première fois officielle où je suis montée sur une scène. Parce que là, j'ai sauté quelque chose de très drôle.
Ouais, mais reviens-y.
Je vais y revenir parce que c'est juste drôle. Dans le fond, c'était comme ma deuxième scène. Parce que mon père avait, à l'époque, avec ma tante Julie, un petit camping à Saint-Lin. À l'époque, on parle de ça peut-être en 82-3, là. J'étais vraiment petite, là, 82 à peu près, là, j'avais à peu près 7-8 ans, là. Puis il y avait un camping à Saint-Lin qui s'appelait le Camping Dallas. Et puis, il y avait c'est-à-dire, il y avait une roulotte là-bas. C'est-à-dire, des terrains là-bas. Et puis, l'été, il organisait un espèce de petit festival country ou de quelque chose comme ça qui se faisait là-bas. Et puis, à un moment donné, mon père m'avait demandé, puis dans ce temps-là, je chantais encore à 7 ans, là, pas de problème, j'aimais ça. Puis j'avais chanté Aïe Aïe de Offenbach avec les musiciens country de mon père puis de ma tante.
Oh boy!
Et c'est toujours resté marqué dans la tête du violoniste André Proulx à l'époque. Parce qu'à un moment donné, quand c'était l'heure du gros solo de guitare électrique, je m'étais retournée vers les musiciens puis j'avais levé ma petite main puis j'avais dit « Solo les boys! » Puis c'est... rigolé!
Ah! Oh, mon Dieu, c'est... Oh! 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 Dieu!
Et André Proulx, il en parle encore!
ça. Oh, tabarouette. Hey, déjà de t'entendre chanter ça à 7 ans, Offenbach. Oui. Puis là, la petite qui sortait.
Mais stop, je l'ai pas. C'était tout un numéro quand même.
Il n'y a personne qui t'avait dit de faire ça.
Ben non, mais j'ai peut-être déjà entendu mon père dire ça. Là, on est pas, j'ai peut-être déjà entendu mon père. Moi, j'ai décidé. Oh, tout le monde avait trouvé ça drôle. Moi, je me trouvais hot, tu sais.
Ben oui, je comprends. Aïe, aïe. Voyons donc.
Ah oui, c'était vraiment chic.
Hey, t'as bien fait de revenir là-dessus.
Oh, oui, c'était trop bon. Oh, fait que dans le fond, la tournée au Kif, c'était ma deuxième prestation publique. Mais c'était un peu plus vrai. Là, c'était énervant.
Hey, j'ai chaud, là.
Moi aussi. Tu sais, au camping d'Alas, là, j'avais pas le track, là, parce que je faisais ça pour m'amuser.
Oui.
Mais la tournée, là, j'étais sénant, là, j'avoue que...
Oui, le track...
Là, j'ai connu le track, parce que...
OK, wow. Embarqué.
Et là, puis il y avait plein de monde, il y avait foule, c'était un aréna, là, tu sais, puis il y avait plein de monde, puis ma famille était là, puis wouh! C'était pas comme chanter dans une cour autour d'un petit feu de camp, là, c'est pas ça, tu sais. Mais là, j'ai eu la piqûre. Là, c'est sûr. Tu sais, on était applaudis, puis les gens ont aimé ça. Puis...
Ouais, le track, mais la piqûre mais aussi.
La piqûre aussi, mm-hmm. Puis chanter avec mon papa. Mm-hmm. Puis là, c'était comme, hey, non, moi, c'est pas la dernière fois que je fais ça, là, c'est sûr que non. Puis après, là, je suis partie en peur. Là. Parce que l'année après la tournée au Kif, là, mon père, après ça, il y a eu le contrat pour aller au festival de Saint-Calixte, puis ces choses-là. Puis avec son groupe, puis là, ben j'allais chanter avec lui à Saint-Calix, puis là, il me faisait faire de plus en plus de chansons, parce que là, il voyait que j'aimais ça, puis que j'étais bonne, puis que je savais plein de chansons par cœur, fait que il m'en donnait, là, plusieurs, là, tu sais, puis je me tenais là, et je passais toutes les fins de semaine avec lui, ça durait 6 semaines, cette affaire-là, mais lui, il était là les 2 dernières fins de semaine, puis ça veut dire 8 jours, là, comme, là, du jeudi au dimanche, puis j'étais là les 8 jours, puis... Aye. J'ai chanté avec lui tout le temps, puis j'étais pas arrêtable, là, mon Dieu, on dirait que j'étais piquée vers je sais pas quelle mouche, mais j'en voulais tout le temps.
Ah, hey, ça m'a fait quelque chose de me replonger un petit peu quand même dans ces émissions-là, parce qu'il fallait quand même que j'aille sélectionner les extraits pour vous les faire jouer aujourd'hui. Ça m'a moi-même fait prendre conscience que des fois, au moment d'enregistrer l'émission versus le moment où je les réécoute, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Des fois, forcément, quand on est avec la personne, on veut que l'enregistrement se passe bien, que l'entrevue se passe bien, il y a la technique, il y a... plein de choses qui entrent en ligne de compte. On veut que tout soit le plus parfait possible. Des fois, on peut être distrait ou du moins pas comprendre l'entrevue exactement de la façon qu'elle se passe. Quand on la réécoute, des fois, ça nous amène d'autres éléments. Et c'est ça que j'ai vécu en faisant cette sélection aujourd'hui pour vous. Il me reste à vous remercier tous et toutes d'écouter les entrevues, d'aller les chercher sur le net. Je sais qu'il y en a qui les téléchargent, qui les conservent. Tant mieux, c'est là pour ça. J'espère que de plus en plus de gens le feront. Les entrevues sont disponibles sur YouTube, ils sont disponibles sur mon site internet. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre aussi de mon site. Et sachez que il y a toujours possibilité de communiquer avec moi si vous avez quelques problèmes, que ce soit à trouver une émission précise ou à avoir accès aux émissions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, vous qui écoutez, vous qui avez accepté de participer ou qui participerez dans le futur, parce que, je vous dirais,
on est en mai 2020. Je ne crois pas que le projet, connaissez-vous, soit terminé parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas que ce soit terminé. Je pense que le projet pourrait prendre d'autres formes, mais même dans sa forme actuelle, je pense que il y a des gens qui pourraient encore venir raconter leur vécu. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit oui, et ce sera encore de trouver un temps. Là, évidemment, avec tout ce qu'on a vécu ce printemps, ça n'a pas aidé les rapprochements sociaux, mais un jour, ça reviendra, et un jour, on pourra continuer de se rencontrer pour faire des entrevues. Parce que il y en a plusieurs qui m'ont dit que je devrais faire des entrevues par téléphone. Et oui, mais non, parce que c'est pas ça le projet, connaissez-vous. Il y a eu une entrevue qui a été faite à distance et je suis content de l'avoir fait, mais ce n'est pas ça que j'avais imaginé en faisant le projet. Et il y a eu les appels téléphoniques que vous avez entendus la semaine dernière, mais encore là, c'est pas ça à la base le projet, connaissez-vous. À la base, le projet, c'est de se rencontrer, de créer un moment pour se rencontrer et de le faire et d'enregistrer en personne. Donc, je ne crois pas que le projet soit terminé. Donc, je pense que vous allez sûrement avoir encore la chance d'entendre le témoignage de ceux qui accepteront bien de vous le livrer. Cependant, je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous dire exactement de comment ça va se faire, parce que il y a des choses qui doivent se régler d'ici là. Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais je vais vous le dire. Il y a mon acolyte du début, qui est Stéphane Pilon, qui m'a signalé qu'il désirait se retirer. Et j'accepte. J'accepte ça. Mais j'ai peut-être pas encore dit mon dernier mot pour essayer de le convaincre de le garder encore impliqué d'une façon ou d'une autre dans le projet, qui se retire pas complètement, mais je peux pas vous dire s'il va accepter. Les pourparlers ne sont pas encore faits, mais j'ai peut-être encore une carte ou deux dans ma manche pour essayer de le convaincre. Mais si ce n'est pas Stéphane, ce sera possiblement quelques autres personnes m'ont déjà manifesté, en tout cas leur envie de m'aider. Il restera à voir quelle forme ça prendra. Donc, voilà. Et tous ceux qui ont accepté de venir faire l'entrevue et ceux qui ont dit oui, mais qu'il s'agira de trouver du temps, ben je vous en remercie, parce que c'est grâce à vous aussi que le projet a pu prendre toute cette ampleur-là. Je ne croyais pas faire 126 émissions quand j'ai commencé. Non, je croyais pas en faire autant. J'espère que vous allez passer un bel été. J'espère que vous allez vous occuper, vous tenir occupé de toutes les façons possibles et impossibles, que ce soit avec des gens, que ce soit plus de façon seule, que ce soit en faisant de la lecture, de l'écriture, de la cuisine, des voyages, du camping, des activités sportives, qu'importe. Ces occasions-là, toutes ces façons de faire, de se tenir occupé sont bonnes. Et j'espère que vous prendrez aussi un petit peu de temps pour aller écouter, réécouter les entrevues et aussi me faire part de vos suggestions, commentaires, des listes de noms. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, ce serait que vous, personnellement, vous m'écriviez pour me dire j'avais pas pensé participer, mais finalement, j'accepte. Vous allez voir, ça passe très vite quand on se rencontre, quand on est ensemble puis qu'on fait une entrevue. Je vous dirais que 98% du temps, les gens vont dire « Oh mon Dieu, il y a déjà une demi-heure de fête, déjà trois quarts d'heure de fête, puis on n'a pas vu le temps passer, on est rendu juste encore dans le début de notre vie. » Donc, prenez l'été pour réfléchir à tout ça, vous tenir occupé, vous garder en santé, et on se retrouve très bientôt. Je l'espère, je le souhaite très ardemment pour d'autres émissions, une autre saison de Connaissez-vous. Bon été, à la prochaine.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com, sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.